Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, c'était pourtant une habitude, le mardi en Algérie, les étudiants défilaient. Or, pour la troisième fois consécutive, les manifestations du Irak n'ont pas pu se tenir. Les autorités algériennes ont déployé un dispositif tel qu'il n'a pas pu être possible de faire partir ces manifestants qui entendaient rappeler leur volonté de réformer le pays. Les autorités algériennes ont déployé un dispositif tout à fait dissuasif, de telle façon à ce que les étudiants ont dû rentrer chez eux. Au moins 20 personnes ont été arrêtées dans la capitale algérienne. L'Algérie qui a été épinglée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme suite aux attaques contre la liberté. En tout cas, ce sont les mots qui ont été formulés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et c'est suite à cette circulaire du ministère de l'Intérieur qui réglemente de façon tout à fait sérieuse, précise, circonstanciée les conditions de manifestation. Celle-ci étant sujette maintenant à une demande qui doit être formulée par les manifestants. Il doit y avoir également le contenu des slogans qui doit être communiqué au ministère de l'Intérieur. Et c'est après étude de ces éléments que l'accord est donné ou pas pour aller manifester. Des militants politiques, des avocats, des citoyens et issus de toutes les tendances politiques, bien évidemment, n'ont pas tardé à dénoncer ce qu'ils appellent une tentative d'imposer une gestion bureaucratique de la liberté de manifester. D'aucuns parlent d'un flagrant déni de réalité quant à la tension de la population qui veut absolument que la situation se débloque. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme appelle le ministère de l'Intérieur à cesser ce qu'elle appelle, cette Ligue algérienne, une dérive. L'Algérie, ce sont également les finances, des comptes, ceux de la loi de finances complémentaires de l'année 2021. Le déficit prévu s'élève à 3300 milliards de dinars, chiffre tout à fait conséquent qui s'explique notamment par la pandémie de coronavirus, mais également des problématiques qui sont propres à l'économie algérienne qui est quelque peu en difficulté. Est-ce que oui ou non, il faut faire tourner la planche à billets comme solution pour pouvoir combler ce déficit? Nombre d'économistes s'interrogent en Algérie. C'est vrai que l'endettement extérieur est toujours possible, mais il obéit à des conditions de solvabilité, des paramètres de gouvernance. Et la question qui se poserait alors, si Alger prend la décision d'accroître l'endettement extérieur, ce serait de savoir est-ce que l'Algérie, est-ce que l'économie aujourd'hui algérienne correspond à ces paramètres d'éligibilité pour obtenir des prêts venant de l'extérieur. Un appel téléphonique, deux communiqués, deux analyses différentes, et pourtant c'était bien un appel téléphonique entre le président de la République tunisienne, Kais Saied, et la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Alors, côté Tunis, tout va bien, selon une formule que l'on entend assez souvent. Cet entretien a visé à consolider davantage les relations de coopération entre les deux pays. Bon, ça, ce type de phrase, on l'entend un peu partout. Mais surprise, du côté américain, les services de la vice-présidente ont également publié un communiqué, mais qui ne dit pas tout à fait la même chose, après avoir rappelé le soutien américain à la Tunisie. La responsable américaine a insisté sur l'importance des institutions démocratiques dans ce pays. Allusion faite ici au projet de réforme de la Cour constitutionnelle. De même, elle a fait part de l'intérêt de la direction de la Maison Blanche à la mise en place de réformes économiques qui avaient été annoncées par l'équipe présidentielle, mais qui néanmoins n'ont jamais vu le jour. Et ceci est nécessaire, rappelle l'américaine, parce que si les États-Unis veulent soutenir les requêtes tunisiennes auprès du FMI, eh bien il faut que la Tunisie rentre dans les clous, comme on dit, qu'elle corresponde bien aux conditions d'éligibilité pour qu'elle puisse avoir accès à ces prêts. Or, les États-Unis estiment qu'à ce jour, compte tenu de la gestion économique de la Tunisie, les autorités de Tunis auraient le plus grand mal à obtenir des prêts. En Libye, une intervention, celle de la 444e brigade de la région militaire de Tripoli, qui en fait est une milice, hein, c'est pas du tout l'armée nationale libyenne, c'est une brigade donc qui est intervenue sur accord des autorités de Tripoli pour libérer 110 personnes qui ont été enlevées par d'autres milices, d'autres groupes armés. Il y a également des armes qui ont pu être récupérées par cette 444e brigade qui est intervenue, qui a fait somme toute un travail de police, un travail des forces de sécurité telles qu'elles pourraient être entendues à Tripoli. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la réunification des organes militaires et sécuritaires libyens n'est toujours pas efficiente, ce qui fait que des milices font le travail à la place de l'autorité nationale, ce qui pose toujours un problème. Pourquoi les milices interviennent alors que l'État, lui, n'intervient pas, et qui rappelle aussi l'urgence, la nécessité absolue de faire partir les mercenaires, les brigades, les milices, les groupes armés, toutes les forces étrangères, si ce n'est à la Libye, en tout cas étrangères au bon fonctionnement de l'État régalien libyen tel qu'il est désiré par la nouvelle équipe gouvernementale. L'étau se resserre en Mauritanie sur l'ancien président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Il est tenu en résidence surveillée à son domicile à Nouakchott. La décision a été prise par le pôle chargé de la lutte contre la corruption au tribunal de Nouakchott. Donc l'ancien président est autorisé à sortir seulement pour des nécessités religieuses ou médicales, mais sinon il doit rester à la maison pour répondre de ses actes et de ses agissements concernant des activités présumées délictueuses, financières, corruptives, on ne sait pas. C'est l'enquête qui dira. On note simplement que cette décision de placer l'ancien président en résidence surveillée intervient quelques jours après que l'enquête ait conduit les équipes de recherche à un ranch qui aurait appartenu à l'ancien président et qui se trouve à l'extérieur de Nouakchott. Un ranch de grand standing, va-t-on dire, et qui interroge sur les conditions financières qui ont permis à l'ancien président de l'acquérir. Ce proche Proche-Orient si loin de nous. Retour à Jérusalem, oui, aujourd'hui encore, retour dans les territoires palestiniens, à Gaza, en Israël, où il y a toujours ces affrontements, d'un côté des tirs de roquettes, d'un autre côté des chars qui ouvrent le feu, ou même des avions qui vont attaquer des positions sur la ville de Gaza, ou des points jugés stratégiques par les autorités militaires israéliennes. On a vu des bombardements, des gerbes de feu s'élever de villes gazaouies, avec bien évidemment, hélas, le cortège de tués, de blessés, de personnes traumatisées, de gens qui n'osent plus sortir de chez eux, de gens qui se demandent mais comment faire, qu'est-ce qui peut arrêter aujourd'hui la conflictualité. Ce ne sont pas les appels qui manquent, puisque les Nations Unies se réunissent aujourd'hui encore pour essayer de faire arrêter les combats. Toutes les grandes capitales du monde l'ont fait. On peut rappeler que le Maroc, bien évidemment, s'est mobilisé. Le roi du Maroc a exprimé sa plus vive inquiétude quant à la situation dans la région. Il y a aussi les hommes politiques, les acteurs de la société civile qui aussi ont exprimé leur grande inquiétude face à ces bombardements de part et d'autre qui amènent une fragilisation de la vie au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus vivre comme avant puisqu'on est quasiment en situation de guerre ouverte et on ne voit pas aujourd'hui du côté de l'équipe du Premier ministre Benjamin Netanyahou ce qui pourrait arrêter, ce qui pourrait temporiser l'engagement des forces de sécurité. Le Premier ministre israélien a eu ce mot qui a retenu l'attention lorsqu'il a dit qu'il allait infliger, je cite, une raclée aux Palestiniens. Une raclée, qu'est-ce que cela veut dire? Militairement, on voit ce que cela veut dire, mais c'est vrai aussi qu'on est au regret de constater que, au-delà du mot raclée, il n'y a aucune perspective du côté israélien, il n'y a aucune perspective de pourparler, d'entretien, de négociation, de retour de la chose politique dans cette situation qui semble échapper à tout le monde, qui ne peut que faire souffrir davantage les populations de la région. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve demain pour de nouvelles colères du monde.